Donc la première chose qu'on voulait savoir, c'était un peu quelles sont les origines de Groinge, et donc de toi aussi en tant qu'auteur, Big Ben, comment tu as commencé, et comment Groinge s'est mis en place petit à petit, etc. Et voilà.
Bien, ça a commencé par mes études à Nice et mon envie au bout d'un certain temps de faire un petit peu de peinture dans un atelier dans un squat à Nice qui s'appelait le Hangar Saint-Roch avec des groupes d'artistes niçois qui venaient squatter et peindre un peu partout. Mais au bout d'un an, je suis revenu à mes amours, la bande dessinée, et j'ai décidé de faire un fanzine qui s'appelait le Facochère, qui a été distribué à Nice, enfin vendu 1 franc ou 5 francs. C'était vraiment le fanzine photocopié, agrafé, etc. Et en parcourant un petit peu les campus avec ce fanzine, j'ai rencontré Fafé avec son ami de l'époque. Et on a commencé à former un petit groupe au fur et à mesure des rencontres. Et ça, c'était à peu près en 92-93. Et on a fondé les éditions Groinge en 94 ou 95, je ne sais plus, 95 je dirais. Tout simplement pour faire d'autres choses, pour continuer le FACO mieux. Et puis pour essayer de faire des livres. Voilà, donc à partir de 95, on a continué le FACO jusqu'en 2002. Mais parallèlement, on s'est mis à faire des livres. Et puis bien sûr, en fonction aussi des rencontres, des différentes rencontres qu'on a faites dans les festivals. Donc on a rencontré des gens comme les gens de les Belges de Liège, là, Fifi, qui faisait le collectif. Sinon, on a rencontré des Suisses qui nous ont passionnés, Mnal Rabin, Legenda Trabil. On a rencontré des Américains aussi, Tom Hart à l'époque avec Lila Corman. Et donc la revue du FACO s'est épaissie. Et parallèlement, on a eu envie aussi d'approfondir chacun son univers. Donc en faisant des livres, quoi, des vrais livres. Voilà, et en fait, l'étape suivante a été en 2002, quand on a décidé de passer à une diffusion professionnelle. Et on a donc démarché et on a trouvé un diffuseur, un distributeur. Ça nous a permis d'arrêter de faire de transporter nos valises dans Paris ou dans quelques librairies spécialisées et de se consacrer vraiment à l'édition proprement dite. Voilà.
Je ne sais pas si on l'a enregistré, mais cette anecdote, tu viens à Paris avec ton gros sac et tu reviens en sens inverse. Si tu peux nous reparler de ça au cas où ça n'a pas été enregistré.
Parce que c'est assez chouette.
Voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être dans les années 97 jusqu'à 2002, hein, j'ai passé pas mal de temps. J'habitais à Rouen et donc à peu près tous les 2-3 mois, quand il y avait une sortie, je prenais le train avec mon gros sac rempli de bouquins de Groinge, des nouveautés, et je faisais le tour de toutes les librairies spécialisées de Paris, une dizaine, quoi. Et bien sûr, à chaque fois que j'arrivais dans une librairie, je donnais mes bouquins, on signait le bon de dépôt, parce qu'en plus c'était des dépôts, hein, c'était pas des achats fermes, hein, faut pas rêver. Et donc voilà, je récupérais ce qui avait été vendu, enfin je récupérais ce qui n'avait pas été vendu, je récupérais aussi un peu d'argent quand même. Et puis instantanément après, j'achetais plein de bouquins dans cette librairie, donc 10-15 librairies dans la journée, plus le restaurant, plus le train, etc. Ça me revenait très cher, mais j'étais heureux comme un pape, mais très fatigué. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années de ce rythme-là, ma bibliothèque s'est bien fournie, mais j'ai eu un petit peu envie de passer, de déléguer un peu cette tâche assez prenante à quelqu'un, à des professionnels. Il se trouvait qu'on faisait des livres qui pouvaient à ce moment-là être distribués, donc en 2002. C'était à l'année où on avait eu l'Alphar fanzine aussi, ça nous a pas mal aidé quand même pour démarcher. Et donc du coup on est passé à une distribution professionnelle, ce qui nous a bien aidé quand même. Voilà. La revue, comme je connais pas mal d'auteurs, je me suis dit que ce serait bien de faire une revue faite par les auteurs qui réfléchissent sur la bande dessinée. du point de vue des auteurs, pas seulement, pas des critiques. Alors, donc du coup, ça a trouvé un écho très favorable auprès de pas mal d'auteurs, mais et la revue a duré jusqu'à ce numéro-là. Je me suis assez vite, j'ai passé le relais à Jean-Paul Genquin au bout du numéro 4, parce que je me suis senti un peu dépassé. C'est vrai que moi je suis pas, j'ai fait des études de lettres, je maîtrise le langage et la réflexion, etc. Mais ça prend quand même, il faut bien avoir conscience que ça prend énormément de temps. Enfin, pour moi, ça me prenait énormément de temps d'écrire, de prendre ma plume pour écrire et réfléchir et faire quelque chose de solide. Et donc j'ai eu besoin quand même de donner la... Le fait de trouver Jean-Paul Genquin a été une bénédiction parce qu'il était tout à fait enthousiaste. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de particulièrement difficile d'écrire un texte d'étude, de réflexion, etc. Donc, il a pu motiver plein de gens. Et il a donné un nouveau souffle à partir du numéro 4 du Comics Club. Malheureusement, là, c'est vrai qu'on arrête au bout de 11 numéros parce que... Même ça, ça me prend, comme vous me disiez tout à l'heure, ça, c'est beaucoup de temps d'intendance, de gestion. On a des abonnés, il faut tenir à jour le registre des abonnés, il faut envoyer les services de presse, enfin tout ça. Puis bon, la maquette, tout ce qui est maquette, puis bon, moi aussi je participe, donc ça demande. Donc c'est vrai que là, j'ai décidé d'arrêter. C'est pas de la lassitude en fait, c'est pour ça que je disais que c'était pas vraiment négatif, c'est pas du tout négatif, c'est plutôt l'envie de faire autre chose. Et ça veut donc, je pense que l'envie doit être la première nécessité dans tout ça, quoi. Parce que l'envie, le plaisir, sinon c'est une sorte de routine. Et il n'y a rien de pire que faire le 36e numéro du Comics Club en bâillant, quoi. Là, c'est vraiment, ça doit être quelque chose de passionné. Et si je commence à me dire, oh là là, encore un numéro à faire. Il va falloir encore envoyer des lettres de relance à tout le monde. Ils font chier ces auteurs, ils ne veulent pas répondre. Enfin bon, je me suis vu en train de râler des fois de temps en temps comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible, faut arrêter. Voilà, donc bon, j'espère que d'autres prendront le relais. Il y en a, bon, en ce moment, c'est vrai que ça va devenir un certain désert au niveau des revues critiques, puisque je vois que 9e Art s'arrête. Il y a même la revue canadienne qui était lancée par Jimmy Beaulieu, qui ne va pas survivre à son numéro 1, parce que comme ils ont été rachetés par je ne sais pas quelle grosse maison d'édition, c'est pas quelque chose qui marche. J'en discutais justement avec lui tout à l'heure, et il me disait, pourtant c'est une vente énorme, ils ont super bien marché avec cette revue, ça, elle a bien marché au Québec, et malheureusement, mais malgré ça, pour c'est vraiment regardé comme quelque chose d'invendable. Voilà, donc en ce moment, il y a beaucoup de revues qui s'arrêtent. Et j'espère bien que quelqu'un va prendre le relais. Et je suis quand même sidéré de voir que il n'y a aucun éditeur, même un éditeur grand public, qui n'a l'idée de faire une revue. Une revue de bande dessinée avec de la réflexion et du contenu, parce que il y a tellement de possibilités de participation et tellement de gens qui pourraient faire des choses intéressantes, c'est incroyable. On a eu une période un peu heureuse avec les cahiers de la bande dessinée, puisque c'était quand même diffusé en kiosque, etc. Moi, c'est comme ça que je me suis intéressé. J'avais 18 ans, j'allais acheter mes cahiers de la bande dessinée avec passion, et ça reste pour moi un souvenir très, très fort, parce que je lisais des articles sur des auteurs que je connaissais absolument pas, et les articles me passionnaient quand même, parce que ils parlaient d'une chose qui la bande dessinée qui m'interpellait beaucoup, et le fait même de parler d'un auteur de manière aussi précise, intelligente, passionnée, me semblait une sorte d'introduction vraiment et quelque chose qui avait une valeur en tant que telle, pas seulement pour mettre en valeur l'œuvre en question, mais parce que c'était... il me semble que la réflexion sur la bande dessinée doit être quelque chose qui est à sa place, pas seulement une sorte de quelqu'un qui va donner un éclairage sur un livre. Ça doit avoir sa propre place, quoi. Et là, en bande dessinée, ça n'existe pas. Très peu, très faible.
Moi, je trouve ça assez frappant. Ce matin, j'ai acheté le journal, et enfin, deux journaux, Le Monde et Libération. Donc par exemple, jeudi, il y a le Libération tout en images. On parle beaucoup de... Enfin, on parle en tout cas un peu du festival, de certains livres, etc. Et par exemple, aujourd'hui, on n'en parle plus, quoi. Où on parle... J'ai un peu l'impression que c'est soit on parle des auteurs qui sont sur la place, qui ont déjà... qui ont derrière une grosse machine médiatique... Et les gros classiques, quoi. Et après on parle soit de cela soit des petits nouveaux qui montent comme ça, des jeunes, et il n'y a pas vraiment d'entre les deux comme ça, et je trouvais ça un peu dommage qu'on parle pas assez en profondeur justement de certains auteurs, ou j'ai un peu l'impression qu'il y a une paresse comme ça des journalistes qui ils ont un dossier de presse et ils parlent des jeunes qui montent, quoi. Bastien Vivès, j'ai un exemple, il y a plein de jeux. Ils prennent certains albums comme ça, plic-ploc, parce que ça, c'est la hype un peu, c'est, je sais pas.
C'est l'actualité, c'est justement ce qu'on a refusé, c'est on a refusé l'actualité dans le Comics Club. Ouais. Parce que c'est une sorte de dictature de la nouveauté qui est tellement éphémère que c'est périmé un mois après. Donc on a voulu, nous, essayer de partir de ce qu'on aimait sans s'attacher à l'actualité, des fois qui nous rattrape là, puisqu'on avait fait un numéro sur Rabagliati dans le numéro précédent, alors qu'il n'était pas du tout d'actualité. Puis là, il a été sélectionné pour le prix meilleur album, je sais pas. Enfin, c'est une sélection générale maintenant. Il a été sélectionné. Il va sortir un album. Bon. Voilà, donc en fait, on précède l'actualité, du coup. Voilà, c'est tout.
Tu disais, on arrête le Comics Club, notamment parce qu'on a envie de faire d'autres choses. Donc, ce qu'on se demandait un peu, c'est soit par rapport à Groinge, soit par rapport à toi, justement, c'est quoi faire ces autres choses? C'est quoi, donc, qu'est-ce qu'il y a un peu devant vous, comme ça, maintenant, comme projet
Alors, pour l'instant, on a eu quelques passages de réflexion, parce que, bon, effectivement... On n'est pas très en vue visible en librairie, etc. Moi, je suis obligé de parler en mon nom parce que c'est vrai qu'on est deux à Groin, je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc pour l'instant, moi, ce qui m'a poussé à arrêter Comics Club, c'est effectivement pour avoir plus de temps pour faire mes propres bandes dessinées. J'ai une quinzaine de projets qui dorment, que j'essaie d'entretenir. Qui sont déjà bien avancés, et donc c'est vrai que là la frustration est assez énorme, quoi, parce que vraiment je me dis que le temps est compté, et que si je veux les faire, il faut que je m'y mette tout de suite et que je supprime tout ce qui est superflu, tout ce qui est vécu un peu comme une sorte de distraction, hein, bon. Voilà, donc pour moi en tout cas, dans l'avenir, c'est vrai que j'essaie de me recentrer sur moi, Big Ben, auteur de bande dessinée. Voilà, donc après, chez Groinge, en fait, on n'a jamais de plan de conquête du monde, hein. Donc on est vraiment, ça fonctionne au coup de cœur et aux auteurs qui nous proposent, bien souvent, souvent des gens qu'on connaît déjà. On espère bien sortir un troisième tome des livres qu'on a fait avec Gilles Rochier, là, qui s'appelle Dunk Chicken, là, donc une série. Donc je pense que ça, il prévoit de faire un troisième tome, donc ça nous plairait bien. On voit déjà la couleur, parce qu'il y a du rouge, du vert, et puis voilà, une troisième couleur. Donc, et sinon non, à part on a quelques petites idées, mais c'est rien de très... Enfin, moi j'ai à peu près 10 bouquins à sortir chez Groinge dans les 6 mois qui viennent. Donc, oui, mais j'y arriverai pas.
C'est ambitieux. Rendez-vous dans 6 mois, quoi. On pourra en discuter.
Ok, mais je pense qu'il y avait encore une question en tant qu'auteur, un livre de bande dessinée qui t'a marqué. C'est pas nécessairement un livre que tu as lu dans l'enfance, ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi un livre qui t'a marqué plus tard, qui t'a motivé pour faire ce que tu fais maintenant, peu importe le moment où tu l'as découvert, mais voilà, quelque chose auquel tu penses, auquel tu... Voilà.
Je peux pas trop dire, là, parce que j'ai pas de livre fétiche. Je pourrais citer quelques auteurs. Blutch, par exemple, j'ai vraiment... moi, je sais qu'à l'époque, quand il a sorti Mademoiselle Sunny Moon, ça m'avait vraiment scotché. je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait un ton très très nouveau, une façon de jouer avec le langage aussi, qui était vraiment... qui n'était pas du tout nouvelle finalement, parce que ça a été fait par Queneau, ça a été... il y a un petit côté, il y avait un, je trouve, quelque chose qui me faisait penser à Forrest aussi dans le dessin, dans la façon de la sensualité du dessin, etc. Que dire d'autre ? Si, moi je pense que vraiment ce qui m'a le plus... le livre qui a été une sorte de révélation, c'est Lapineau, je ne me rappelle plus du titre.
De Trondheim, Lapineau et les carottes de Patagonie.
Ça me revient. Et je suis très frustré parce que je l'ai perdu, ce livre. J'avais l'édition originale. Je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Et donc voilà, Lapineau. Alors en plus, le fait de l'avoir perdu, j'y pense souvent. Et c'est un petit peu... Je crois que dans l'histoire, il doit se rendre à l'ambassade de Patagonie. Je sais pas. Donc c'est, voilà, moi je vide aussi l'ambassade de Patagonie. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et je trouve que voilà, je pense que le début du parcours de Lewis Trondheim est quelque chose de très vraiment passionnant pour moi, parce que c'est quelqu'un qui a commencé avec quasiment rien. On a l'impression d'une sorte de quelqu'un qui se crée en direct. Et ça vraiment, et je l'ai vécu parce que j'étais là à ce moment-là. Je l'ai vu, je l'ai rencontré, j'ai vu ses premiers comics. J'en parlais à tout le monde parce que c'était vraiment pour moi quelque chose de tellement impressionnant. Et il a fait la carrière qu'il a eu. Après, je me suis dit que bon, j'avais pas plus besoin d'en parler. Mais vraiment, c'était. Voilà, je pense que Lapineau et les carottes de Patagonie est aussi le livre qui m'a passionné.
Et une dernière question par rapport aux 24 heures. On voulait. Connaître ta position par rapport aux 24 heures de bande dessinée, est-ce que tu en as fait, est-ce que tu voudrais le faire, est-ce que ça te rebute, voilà.
Ah non, ça me plairait beaucoup, mais j'arrive pas à trouver le temps, comme je vous en parlais dernièrement. C'est tout, mais sinon, oui, je suis tout à fait partant. Alors, je vais peut-être que le faire chez moi, pourquoi pas essayer de le faire chez soi, mais alors ça va être difficile, il va falloir que je ferme ma porte à double tour, parce que je suis souvent sollicité, donc...
On en fait à Bruxelles depuis 2 ans maintenant, donc on recrute, donc voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que ça ne te rebute pas, donc après...
Ça me rebute pas du tout, j'adore faire ça, d'ailleurs j'ai fait une... Enfin, la bande dessinée improvisée est quelque chose de vraiment passionnant aussi, c'est à partir du moment où on sait que c'est improvisé, on lit une bande dessinée improvisée et qu'on sait que c'est fait de cette façon-là, il y a une lecture un peu différente, c'est-à-dire avec une certaine... tolérance sur peut-être certaines des errances du scénario, quoi, mais justement ça crée vraiment un genre particulier, et moi j'adore ça, parce que bon, quand j'ai fait Bétagraph, j'ai fait un album qui s'appelait Bétagraph, qui est une sorte de feuilleton, c'était complètement improvisé, peut-être pas vraiment de la même façon, mais l'histoire elle se cherchait elle-même une fin, quoi, ou un prolongement, et ça j'adore vraiment, c'est les bandes dessinées où les récits, où on a l'impression de voir que c'est, on a l'impression de les voir s'écrire sous nos yeux, c'est toujours un grand moment. Je pense à certains bouquins de Boris Vian qui donnent cette impression-là, l'impression de quelqu'un qui est en train d'écrire à côté de nous, et vraiment c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc ça permet de déclencher ce genre d'écriture, et pour ça c'est bien. Après, ça peut donner des choses moyennes aussi, donc, après, il y a un tri à faire, mais oui, au niveau du principe, c'est super, super. Donc, je suis tout à fait partant.